Mais t'as raison, cette parole-là n'existe plus. Tu vois, mais cette parole, cette fonction de la parole n'est plus la vérité. On peut pas vous dire cela, que pour l'extérieur, je pense que ça a été dit, mais ce n'est pas le cas, mais je pense que cette fonction n'a plus. N'a plus les yeux d'être, n'a plus sa voix s'appliquer. Et je parlais encore de deux autres choses. Je voulais parler un peu de la force par rapport au verbe communiquer, mais la forme est certes assez importante, il y a le fond, mais la force, on ne peut pas la négliger non plus. Je crois que la même chose, vous voulez savoir,
ça
théâtre. Si maintenant vous vous en déguisez que quiconque porte une jolie veste et une chemise blanche, c'est forcément ça. Bon, non, évidemment que non. Et puis alors la tour de Babel, là j'avoue que je n'avais pas trop réfléchi à la question de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est le mythe d'une origine perdue. L'humanité aurait parlé un même langage, et puis Dieu aurait divisé l'humanité en langages divers. Nous ne parlons pas les uns les autres la même langue, et même quand nous parlons la même langue, même lorsque nous parlons tous français ou alsacien ou hébreu, je ne sais pas quoi, à l'intérieur du fait même de parler la même langue, il y a la compréhension que chacun peut avoir. Vous parlez français, il y a des gens qui parlent parfaitement français, vous parlez avec eux, vous avez l'impression que ce n'est pas tout la même chose, quoi, même si on utilise les mêmes mots. Donc voilà. Moi, c'est ça que ça me renvoie un peu de l'histoire de Babel. C'est qu'il y a quelque chose dans la langue, dans les langues que se parlent les hommes, qui est effectivement un clivage, dans une espèce de chaos, et que l'effort de la parole se fait décider de se parler malgré tout, quoi, malgré les risques de malentendus qui sont absolument phénoménaux et permanents.
Rapport des choses que les femmes veulent, le lieu de la parole soit le désert. Tout ça, le lieu de la parole, c'est quand même pas un désert.
Je suis surtout intéressé par ce que vous allez m'apprendre. Si vous posez la question, c'est que vous allez les apprendre.
Écoutez,
j'ai pas réfléchi en tant que tel, alors je vais associer librement à partir de votre question au moins deux choses. D'abord le désert, bon, petite expérience du désert, ça a été beaucoup dans le désert, quelqu'un dans la salle qui a été beaucoup plus que moi. Mais il se trouve quand même qu'en janvier 2007, je le raconte un peu dans le bouquin, j'ai fait une longue marche à travers les déserts entre Taman Rasset dans le sud de l'Algérie et Djamel. Pour la frontière du Biel, on a fait 600 bornes à pied dans le désert. Et c'est assez dur le désert, quoi. J'ai dit à un moment donné dans mon petit ouvrage, j'ai pas trouvé Dieu dans le désert. Pas plus que les astronautes ne l'ont trouvé à l'époque dans le ciel. Moi, je n'ai pas trouvé non plus Dieu dans le désert, et je ne suis pas le seul, parce que pendant que je marchais, en fait, j'avais une entorse de la cheville, pendant que je traversais le désert du Hoga, je lisais le soir les carnets de Théodore Monod. Et Théodore Monod dit qu'on ne trouve pas Dieu dans le désert. Alors, ça a bien résonné avec ma propre expérience. Je dis que les petits bobos prennent un net avantage sur les questions existentielles et métaphysiques. Et Théodore Monod dit, et ça je trouve que c'est merveilleux parce que justement il y a là quelque chose d'une élaboration symbolique, que l'observation de la nature ne mène pas à Dieu, mais que Dieu est un fait de culture. Et ça me plaît beaucoup parce que je ça fait une digression par rapport à l'observation, mais ça part quand même du désert. Parce que moi je m'énerve un peu comme ça, je critique un peu certaines représentations un peu romantiques de la nature, parce que peut avoir cours dans le christianisme, Marc, tu vois ce que je veux dire, on voit les sommets des plages enneigés sur des cartes postales et puis il y a marqué le Seigneur et mon berger, des choses comme ça. Donc si Dieu était là dans la nature, c'est quand même le psaume où les cieux racontent un noir de l'éternel. D'accord. Bah, c'est pas dans la vie de mer. Mais il y a cette espèce de romantisme, les petites fleurs, les oiseaux, le grand Dieu et tout ça. Alors que Théodore Monod dit, quand vous voyez un crapaud dont la face est, alors qu'il est vivant, est dévoré par des vers, il n'y a pas la volonté de Dieu là-dedans, quoi. C'est déjà dans la dimension abrupte, réelle de la nature, quelque chose qui ne mène pas à Dieu. Donc le désert non plus, à mon avis, ne mène pas à Dieu, même si la route est voilée de splendide, même si les montagnes, la lumière, tout ça, c'est absolument merveilleux. Et puis il y a quelque chose dans le désert qu'on ressent israélienne, c'est le silence. Le silence absolu pouvait être sur une dune le soir et vous n'entendez rien. C'est un jour où il n'y a pas de vent, vous entendez juste un petit bourdonnement qui est celui de votre sang dans vos tympans et c'est tout. Donc peut-être que pour qu'il y ait une parole à un moment donné, il faut qu'il y ait une traversée du désert, qu'il y ait en tout cas du silence pour que quelque chose, une parole puisse émerger. Voilà.
C'est aussi une autre, notre correspondance linguistique, c'est que le verbe, c'est un verbe, veut dire également s'ouvrir. Parole qui s'abonde dans le courant. Une parole dans le silence du désert.
De toute façon, le désert, c'est une métaphore, c'est-à-dire que par la traversée du désert, c'est pas rien, c'est-à-dire que, bon, de manière existentielle, et puis c'est aussi l'expérience du monde psychanalyte, je veux dire, vous ne venez pas à la parole comme ça, je veux dire, c'est pas même pas en lisant des bouquins, quoi, je veux dire, c'est quand même parce qu'à un moment donné, dans votre existence, vous êtes coltiné quelque chose de difficile, quelque chose qui est de l'ordre de la perte, du deuil réel, symbolique, mais enfin, c'est quand vous regardez la difficulté de vivre en face, non seulement que vous la regardez, mais que vous la traversez comme la mer rouge. C'est là qu'après, vous pouvez éventuellement essayer d'énoncer une parole qui en tout cas fait sens pour vous, et qui fait aussi pour quelques autres.
Parce que la parole n'est pas le pouvoir de faire rôle de la parole, c'est pas de procurer à vous.
Sans civilisation, enfin que du rock, quoi. c'est un peu pessimiste peut-être. Ça peut nous traverser, mais est-ce qu'il n'y a pas là un pessimisme assez fondamental? Et ma deuxième question, c'est tout à fait autre chose, enfin quoique. Il est question à un ou deux endroits, mais sans qu'il y ait aucun développement, de la responsabilité du protestantisme dans sa version luthérienne, dans le nazisme. Bon, il y a un film là qui est sorti il y a quelques années aussi qui montre ça, un film d'un Allemand, sur l'éducation pré-nazie. Voilà. Donc est-ce que tu pourrais dire un mot là-dessus?
Oui, oui, très volontiers. Alors d'abord sur le pessimisme, oui, bon, écoute, il y a un moment donné, ça prend beaucoup d'importance, mais je dis, finalement, qu'est-ce que la planète perdrait de se débarrasser de l'anarchique et prétentieuse présence humaine? Bah oui, parce que, mon Dieu, quand on voit tous les dégâts quand même, hein, que l'être humain produit dans le monde, de cette destruction du biotope, de la nature, là je me fais un peu écolo, quoi. Enfin, c'est pas être écolo, c'est que il y a une intrusion de l'humain dans le naturel qui a certains dégâts aussi, on sait bien, la planète, c'est affreux. Maintenant, qu'est-ce que c'est la planète sans l'humain? C'est peut-être pas un jardin non plus. Quand vous voyez des forêts qui ne sont pas entretenues par l'être humain, bah, en l'espace de quelques années, c'est la jungle, c'est la lutte des espèces entre elles, c'est pas romantique. Donc, voilà. Bon, ça va, c'est vraiment une pensée qui n'est pas une pensée de fond pour moi. Si tu as bien perçu quelque chose dans cette réflexion précisément, qui fait quatre ou cinq lignes dans mon petit écrit, où à un moment donné, je me dis, merde à l'humain, quoi. Enfin, finalement, le désert, il est beau, et puis s'il n'y avait pas les hommes, il serait tout aussi beau, sauf qu'il n'y aurait personne pour le voir. Mais c'est juste une pensée fulgurante, bien sûr, parce que je suis quand même parfaitement enraciné dans l'humanité. Si j'étais complètement désabusé, cynique, et pessimiste sur l'humanité, déjà, je pense que je ne serais pas là ce soir pour vous parler de tout ça. Ensuite, la question que tu évoques, tu l'as bien repérée, c'est aussi la phrase que vous avez citée tout à l'heure, Madame Lambert, qui renvoie à une interview d'Ingmar Bergman, qu'il avait donnée au Monde. Je dis la chose suivante. Alors, Bergman était né en Suède, dans une famille luthérienne, je crois que son père était pasteur. Je ne crois pas que son père était pasteur. La plus grande part de notre éducation a été fondée sur des concepts comme le péché, l'aveu de nos fautes, la punition, le pardon et la grâce, qui furent des agents réels dans la relation parent-enfant et dans notre relation à Dieu. Il existait dans tout cela une logique interne que nous acceptions et que nous nous imaginions comprendre. C'est cela aussi qui a peut-être contribué à nous faire accepter le nazisme sans réagir. Nous n'avions jamais entendu parler de liberté et nous en connaissions encore moins la saveur. Dans un système hiérarchisé, toutes les portes sont fermées. Bon. Ça me parle. Ça me parle plus du point de vue de ma fonction actuelle en tant que pasteur dans l'Église protestante que du point de vue de mon histoire personnelle. Parce qu'il se trouve que mon père n'était pas pasteur, d'ailleurs j'avais un père qui était catholique d'origine, pratiquant, occasionnel, qui n'emmerdait personne avec tout ça. Et par contre, ça me parle quand je le mets en écho avec ce que des amis à moi, qui eux sont fils de pasteurs, ont pu vivre et me racontent de leur enfance, parfois infernale, dans des familles pastorales, luthériennes, je vois que Sylvain, tu connais bien le protestantisme à Kiev, dans des familles luthériennes pastorales, tout à fait caractérisées, conventionnelles, etc. Il vient de mon père.
Bon, il venait pas de faire, c'est dur. Et il y a un film, d'ailleurs, de Bergman, c'est absolument tragique aussi, sur cette question, ça s'appelle Famille Alexandre. Bon, si vous voulez savoir ce qu'est un homme de Dieu pervers, et regardez l'évêque luthérien du Psala, vous regardez le film de Ingmar Bergman, et là, du temps pour des questions de droit, on ne trouve nulle part, ni à Virgin, ni à la place. C'est le seul film de Bergman qui n'est pas publié en DVD. Vous pouvez le télécharger illégalement sur Internet. Je regarde mon fils, il m'a proposé de le faire. Et le fils de Bernard, c'était terrible parce que là, on voit qu'il y a un évêque qui ne fait rien dans son expression la plus perverse.
Quelqu'un qui est
un sapeur en public, quand il fait ses cultes le dimanche, et qui est un salopard fini, avec les, en l'occurrence les enfants de sa seconde épouse. Oui, parce que c'est pas drôle en plus, c'est-à-dire que c'est un aura, quoi, c'est l'impression morale jusqu'à la moelle. Et oui, c'est la perversion. Et le film que vous avez évoqué tout à l'heure et que tu as évoqué aussi, de Michael Haneke, le ruban blanc, vous l'avez vu ce film,
c'est extraordinaire, c'est bon,
c'est un film absolument extraordinaire. C'est-à-dire, moi je dois dire que rarement dans ma vie, un film a autant bouleversé que le ruban blanc de Michael Haneke, qui est un film qui montre la vie dans un village du nord de l'Allemagne, c'est juste avant la Première Guerre mondiale,
début du XXe siècle,
début du XXe siècle, et puis alors les choses, on ne sait pas ce qui se passe, c'est horrible, il y a une atmosphère étouffante, les gens sont complètement tordus dans leur rapport entre eux, les gamins sont complètement problématiques, enfin ça ne se raconte pas. Il faut le voir ce film, c'est un film en noir et blanc, c'est absolument splendide, et c'est absolument désespérant, parce que là on voit ce qu'est la perversion religieuse dans une société. Alors moi j'en parle librement, mais effectivement, dans toutes nos cultures religieuses, on a sans doute tous de quoi balayer devant notre propre porte. Mais par rapport à la question très précise, historique, sur la responsabilité du luthéranisme par rapport au nazisme, pour moi c'est clair, net et précis. On n'en parle pas de ces choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'encore aujourd'hui, beaucoup de facteurs, bon, c'est plus les tout jeunes, c'est des types maintenant qui vont progressivement vers la retraite aussi. Mais beaucoup de pasteurs ici en Allemagne ont eu des pères impliqués dans cette histoire. C'est vrai, je ne dis pas que c'était tous des nazis, enfin c'était des gens qui avaient parfois des positions un peu ambiguës par rapport au nazisme. Certains pouvaient avoir des convictions d'ailleurs un petit peu aussi. Alors il n'y a pas eu que ça, il y a aussi eu des pasteurs luthériens qui se sont engagés pour des juifs, ou qui ont empêché que la synagogue du coin soit détruite. Il y en a eu, bien sûr, quand c'était qu'un Hitler, notamment, qui travaillait sur la synagogue. Bon, il y a eu l'un et l'autre en permanence, mais il y a le fait historique qui est indéniable. J'en parlais d'ailleurs le 2 février dernier à Auschwitz même, au pied du mémorial, où des rentres arrivaient des convois déportés. M. Condenet, qui avait organisé le voyage à Auschwitz, m'a demandé de dire quelques mots. J'ai dit, voilà, je ne peux pas ici à Auschwitz ignorer qu'en 1543, 3 ans avant sa mort, Luther, grand homme, grand réformateur, esprit éclairé, libre à son époque, c'est-à-dire siècle, Luther a écrit un texte ignoble, on ne peut pas faire pire. Même Julius Streicher, qui était l'un des pires antisémites du régime de Nazi, et qui était responsable de la revue Der Stürmer, qui était un truc d'anti-judaïsme absolument primaire, épouvantable, absolument épouvantable, Julius Streicher a dit, mais qu'est-ce que j'ai écrit moi que Luther n'avait pas déjà dit. En 1543, von den Juden und ihren Lügen, des Juifs et leurs mensonges, un pamphlet de Luther, probablement déçu de voir que des Juifs restent Juifs et qu'ils ne se convertissent pas au christianisme alors que lui, avait révélé via sa réforme le christianisme dans toute sa splendeur et donc ne se pouvait pas dire non à Jésus une fois qu'on était passé par Luther. Plein de rancœur, d'amertume et d'aigreur, Luther écrit les Juifs, il faut leur accorder aucune protection légale, il faut les expulser, leur fanfaronnage sur leur lignage, leur loi, leur circoncision sont des cochonneries. La synagogue est une putain d'ignoble et une souillure du diable, etc., etc., etc. Alors tout ça n'est pas représentatif, bien entendu, de l'ensemble de la pensée protestante, ni même de la pensée de Luther, mais ce sont des mots qui ont été dits. Et pas ce sont des paroles. Ce sont des paroles, et que dans la représentation collective, ces paroles, évidemment, ne pouvaient pas rester sans effet. Elles ont forcément eu ces effets. D'où notre interrogation aujourd'hui. Et j'aime autant vous dire que moi, cette question, elle me passionne, elle me touche. Mais dans les églises protestantes, si
mon assemblée ce que je suis en train de vous raconter là ce soir, il y a des gens qui vont être intéressés, il y a des gens qui vont peut-être apprécier, mais il y en a aussi quelques-uns qui vont me faire la gueule parce qu'ils ne supportent pas cette interrogation. Parce que peut-être personnellement, dans la famille, ils ont été concernés. Mais il y a une interrogation, pardon. Puisque chez les protestants, c'est pour continuer ça, est-ce qu'il y a eu l'équivalent de Vatican II qui est revenu sur l'accusation du peuple de génocide? Est-ce que des autorités protestantes à la hauteur du pape, si on peut dire, ont dit un jour, voilà, ce qu'on vient d'entendre?
À la hauteur du pape, non, c'est que nous n'avons pas.
Oui, je sais bien, je sais bien.
Nous n'avons pas la même
chose. Je sais bien.
C'est pas vrai. Nous avons par rapport au catholicisme, à toute la théorie du peuple d'Élysée, ou à la théologie de la substitution, etc. On a évacué ça quand même au moins une cinquantaine d'années avant d'avoir la catholique.
Tu situes 5 ans.
Parce que alors là, c'est là, c'est bon, bah, la commission de relations avec les grands mouvements. Déjà, dans les conditions de la charte de la Fédération protestante de France, donc, en 1926, ouais, quoi. Après, il y a eu le Lindbergh, et après, il y a eu beaucoup de. On parle qu'il n'y a pas cette première législation, ou encore en orthodoxie, dans les grands enquêtes, et qu'on voit encore qu'on conclut dans les critiques de le jeu, etc. Et encore aujourd'hui dans le monde orthodoxe. Donc, tout à fait dans un autre domaine, c'est la production, la manière dont j'ai dit avec beaucoup de pudeur, les deux accords.
d'ailleurs Valerio Bartin, qui
qui est là, fondamentalement, et qui reprend cette idée, vous savez, de ce petit jeu, je ne sais pas s'il porte un nom, vous savez ça quand j'étais gosse,
c'est un stacker,
puisque c'est un bon jeu. Il y a des petits carrés, il faut les bouger pour faire un mot, une image, vous avez ça quand j'étais gosse, et pour que le jeu fonctionne, pour qu'on puisse bouger les petits carrés à l'intérieur du cadre, il faut voir, il faut qu'il y ait une carte qui manque, il faut qu'il y ait un trou, il faut qu'il y ait un manque. Et s'il n'y a pas, s'il y avait un petit carré partout dans le cadre, je serais bloqué. Pour que les autres cases bougent, il faut qu'il y ait une case vide. Et cette case vide, c'est la question de la science de Dieu. C'est peut-être même simplement la question de la fonction de Dieu, c'est-à-dire une espèce de point dans la nature. On ne sait pas si c'est habité, on ne sait pas si Dieu est un être, on s'en tape. Mais au moins, il y a une fonction symbolique qui fait que l'horizon n'est pas complètement bouché. On peut encore un peu toucher les cases.
La liberté d'un mécanisme.
C'est la fluidité d'un mécanisme de pensée. C'est la fluidité d'un perception de notre rapport à la réalité. Et moi, j'aime assez cette idée-là, quoi.
Si c'est la liberté, justement, la liberté de son temps.
Oui,
c'est en liberté absolue, c'est de prendre cette liberté convaincue qui est juste de liberté et d'agir sur autre chose qui doit vivre. Au contraire, en dépositif de ce cas,
pas de religieux. C'est-à-dire que les religieux, probablement dans les religions, certaines plus que d'autres, dans certaines périodes historiques plus que d'autres, la tentation de la religion, c'est faire du bouchon, quoi. C'est-à-dire, vous savez, la vie a un sens, voilà, grande affirmation qui vient boucher les trous, quoi. C'est-à-dire que, il faut que ça ait du sens. On ne supporte pas qu'il y ait que du questionnement. On ne supporte pas qu'il y ait que cette perception peut être un peu pessimiste. L'idée que la vie ne puisse pas avoir du sens, évidemment, parce que ça ne puisse pas mal de monde. C'est rassurant, c'est le fond de commerce des religions, pas seulement, mais c'est le fond de commerce quand même des religions, de venir un petit peu boucher le trou, quoi, combler là où peut-être ça ne peut pas être comblé, peut-être même ça ne doit pas être comblé, parce que souvent les religions elles viennent quand même boucher les trous, quoi, c'est un peu la question du fétichisme, quoi. On fétichise Dieu, on fétichise Jésus, on fait une espèce de grand phallus comme ça. La créateur à la base, on ne peut que le croire. Ah oui, madame, moi je me manque de rien du tout. On peut évidemment croire qu'il y a un créateur. Bien sûr, ça nous interpelle tous. Mais bien sûr, qu'un être humain croit en un Dieu qui est un être, d'autres peut-être voient plutôt la dimension symbolique de la fête, d'autres se définissent comme athées. Moi, je ne porte pas de jugement sur ça. Je pense que chaque forme de représentation et de croyance doit être respectée. C'est des questions. Je voulais dire quelque chose, mais ça m'a échappé encore.
C'est la part de la parole, vous avez dit la question des lois que vous avez évoquées.
Oui.
On retrouve en amont et en aval. Je vais vous donner une question. Je veux revenir sur le lien sens des lois avec la parole qu'on retrouve en avant et en aval, justement de ces lois qui nous accordent une certaine liberté, donc avec les affaires qui résident, ou alors justement enfin, qui nous donne cette possibilité de perfectionner les lois, qu'on a retrouvé dans les vers que vous avez donné à la fin de votre discours, ou même au début avec la réalité qu'on ne détient pas forcément, donc qu'on redécouvre.
ne sais pas pourquoi, à l'interprétation des hommes comme religieuses, c'est également à l'extrémisme. Et donc, est-ce que les lois, paradoxalement, ne sont pas là pour éviter justement que chacun puisse interpréter à sa manière les choses, et peut-être parfois de la mauvaise manière?
Oui. Bon, ben, il y a sans doute différents niveaux dans cette phrase-là. Tout est une question d'interprétation. L'interprétation que je peux donner d'un certain nombre de questions que nous abordons ce soir sera peut-être considérée comme une hérésie, une déviance insupportable, ou même un extrémisme par certains. Si on répète ce que je n'ai pas dit, je suis un facteur agnostique, certains vont voir dans cette affirmation une affirmation complètement, on va dire, c'est un extrémisme, comment est-ce qu'on peut faire ça, c'est un extrémisme. Donc, on est toujours l'extrémisme de quelqu'un. La question de savoir quels sont nos critères d'application, ou, enfin, nos critères d'interprétation, nos critères d'application des règles, la question de savoir où on est le curseur, ça, c'est une question très, très difficile. Certaines personnes vont mettre le curseur d'un côté, les autres de l'autre. Nos sociétés démocratiques ont placé le curseur historiquement, culturellement, à un endroit qui ne paraît pas trop mauvais, parce que c'est quand même a priori dans les sociétés démocratiques qu'on vit à peu près le mieux sur la surface de la Terre aujourd'hui. Donc là, on a mis des critères d'interprétation de ce que doit être la loi morale, de ce que sont les règles de la vie en société, de la manière de vivre en bonne intelligence avec les autres. Mais enfin, nos critères à nous peuvent être considérés comme pas assez stricts par d'autres, comme étant trop laxistes, etc. Il y a quelques semaines, nous avons invité à la direction des églises protestantes, dans le cadre d'un groupe de travail que j'avais mis en place, le représentant du culte musulman en Alsace, M. Ayachou, qui est déjà venu parler ici d'ailleurs. Et puis on lui a posé cette question, mais dites-nous donc de quoi vous parlez précisément quand vous dites et quand vous répétez que vous êtes les représentants de l'islam du juste milieu. C'est quoi l'islam du juste milieu? Si on dit c'est le juste milieu, c'est intéressant, ça fait bien, c'est rassurant, mais c'est le juste milieu par rapport à quoi? Donner mieux quelque chose que par rapport à au moins deux morts, quoi. Alors d'un côté, c'était évidemment très clair, il a dit, nous récusons évidemment toute forme d'extrémisme idéologique et religieux, nous récusons tout terrorisme, nous récusons toute forme de violence commise au nom de l'islam. Point. Alors, d'accord, c'est bien, mais ça, c'est juste un extrémisme. Ce serait quoi, à ce moment-là, l'autre extrémisme, que de au juste milieu entre deux extrémismes? Ah, ben, l'autre extrémisme, là, c'est devenu un peu plus compliqué. Parce qu'on entendait comme ça que c'était l'extrémisme de la perte de repères religieux. Vous voyez? Alors, je ne veux pas tenir des propos qui seraient ambigus ou quoi que ce soit sur le responsable du culte musulman. Je donne ça juste à titre d'exemple. Mais on était tous un petit peu indisposés de penser que l'un des extrémismes, évidemment, c'est le terrorisme, c'est le fondamentalisme idéologique, c'est la violence épouvantable, etc., le Al-Qaïda, le Al-Qaïda, ce que vous voulez. Mais que l'autre extrémisme, c'était peut-être les publicités dopables sur les arrêts de bus, vous voyez. Si c'était ça, je serais un petit peu inquiet, parce que je ne pense pas qu'on puisse mettre dans les deux paniers de la balance la violence biologique et religieuse d'un côté, et puis le laxisme des mœurs, tel que nous connaissons en Occident, de l'autre côté. Alors, je peux dire que c'est des publicités d'orales, bien ces femmes sous vêtements qui se promènent dans les rues, sur les affiches, etc. Ça peut heurter un certain nombre de sensibilités, notamment religieuses. Enfin, c'est quand même pas un extrémisme moral.
voyez ce que je veux dire, la France peut faire vivre dans une société qui connaîtra quelques excès de libertinage plutôt que dans une société qui connaîtrait quelques excès de répression. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta façon d'observer.
Je ne vais pas vraiment revenir à ce qu'on disait de l'extrême. C'est plus la question de la plus directe. Est-ce que les lois qu'on a pourraient être transgressées pour justement accéder à un certain perfectionnement ou à une certaine évolution, ou est-ce que les lois sont là pour ne pas être transgressées, quitte à ce qu'on n'arrive pas à cette évolution-là, mais au moins de ne pas basculer dans la décadence et peut-être dans l'extrême.
Les lois ne sont pas faites pour être transgressées. Si les lois devaient être faites pour être transgressées, je serais aborder la question de la loi sous un angle perfect. Je ne peux pas poser le principe que la loi est faite pour être transgressée. La loi est faite pour être respectée. Simplement, la réalité de la vie fait que, mais ça on ne peut pas le poser, on ne peut pas le poser comme un a priori, ça ne peut pas être un principe de base, c'est quelque chose qui vient après. Naturellement, dans la réalité de la vie, une fois qu'on a posé le fait que la loi est faite pour être respectée, enfin, après, on peut toujours discuter du fait que dans certaines circonstances, au regard de ce que sont nos trajectoires et le destin individuel, il peut arriver que nous transgressions la loi et que nous apprenions quelque chose de positif du fait d'avoir transgressé la loi. Mais on ne peut pas le dire en d'entrée de jeu. On ne peut pas dire la loi est faite pour être transgressée, mais faite pour être respectée. Et puis, de temps en temps, s'il arrive qu'on la transgresse, ben on en cause, on essaie de comprendre le pourquoi du comment, et puis on essaie de voir ce que ça nous enseigne. Je précise, nous parlons là de la loi dans un cadre démocratique. Parce que la loi en démocratie et la loi dans un système totalitaire, ce n'est pas la même chose. Nous avons l'habitude de dire. En protestantisme, j'ai aussi travaillé dans ma vie pour une organisation qui a sauvé des enfants juifs pendant la guerre, en les soustrayant à la déportation. Nous faisons, sur le plan de l'éthique, pour revenir à la question de l'éthique, la différence entre ce qui est légitime et ce qui est légal. Une chose qui peut être légale n'est pas forcément légitime du point de vue de l'éthique. Si la loi nous dit demain, vous devez dénoncer vos voisins, vous devez les dénoncer, si vous ne le faites pas, sont sans papier et que vous ne les dénoncez pas, vous ne vous rendez pas une infraction, nous dirons non, cette loi, nous ne l'acceptons pas. Tout ce qui est légal n'est pas forcément légitime du point de vue moral et du point de vue légitime, du point de vue des valeurs que nous voulons défendre.
J'ai une petite inquiétude à propos de Obad, qui est aussi a fait une réflexion. D'abord parce que. D'abord parce que je sais que, ici, juste à la sortie, il y a quelques mois, il y avait un panneau, je ne sais pas s'il est encore là, le panneau, où il y avait précisément ce genre de publicité, et j'ai entendu dire qu'il y a eu des protestations dans cette maison. Bon, mais c'est pas tellement ça, c'est pas tellement ça. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est le côté un peu unilatéral, parce que pour moi, au bas, c'est la même chose que la BOKA. Or, ou l'inverse, mais enfin, c'est la même chose. Or, dans notre société, on vise à interdire la BOKA, mais par contre, on laisse les images déshabillé, alors je ne suis pas contre les images déshabillées, à condition qu'on ne les impose pas et qu'on ne les impose pas à des gens qui ne veulent pas les voir. Si je veux les voir, je peux les chercher là où elles sont. Mais il y a quelque chose comme qui est troublant dans cette affaire. Il y a un unilatéralisme. Bon, c'est question de la burqa et de bas. Bon, il en est question dans plusieurs minutes de féminisme.
Ça dépend de votre curseur. Ça dépend de votre curseur.
Oh, moi j'étais un petit peu inquiet parce que je me suis dit là, et on ne s'est pas encore discuté ce soir avec Jean-Claude Meyer.
Pourquoi discuter au sens de la discussion.
De la discussion.
Voilà.
Non, mais bon. Je ne suis évidemment pas dans cette forme de raisonnement. Je ne suis pas pour le libertinage affiché à des coins de rue pour cette espèce d'érotisation hédoniste de bas étage que nous livre la publicité dans cette société libérale, libertaire, etc. Je
pas l'apologie des publicités pour les femmes dénudées, ou plutôt pour leur sous-vêtement sur les abribus, mais je pense que, bien entendu, on peut pas mettre sur un même plan cette question-là et la question de la burqa. Je peux comprendre son raisonnement, mais je ne le partage pas. C'est-à-dire que là, pour moi, les choses sont très claires. On va peut-être en désaccord là-dessus. Je suis clairement pour l'interdiction de la burqa. Je ne suis pas le seul. Il y a des femmes musulmanes qui se prononcent clairement pour l'interdiction de la burqa parce que c'est une oppression des femmes pour intervenir. Après, il y a des féministes qui sont aussi offusqués par les publicités avec des femmes dénudées. Je peux aussi comprendre, mais c'est un autre débat. Moi, je ne veux pas mettre sur le même plan ces deux questions, parce qu'il me semble que leurs implications politiques ne sont absolument pas les mêmes. On peut toujours discuter de la représentation, du statut des femmes dans la société actuelle, etc. Enfin, on est en démocratie, et ce n'est pas tout à fait la même chose que la question de la burqa. Clairement, moi, en tout cas, c'est un mode d'assainissement absolument totalitaire et insupportable des femmes. Quoi. Et on ne peut pas comparer ces deux choses. Pour moi, on ne peut pas les comparer.
Pourquoi vous allez à la table? Pourquoi vous allez à la table?